2000年の歴史を刻み受け継がれてきた恐るべき暗殺拳があった。その名を北斗神拳。天空に連なる7つの星のもと、一子相伝の北斗神拳をめぐって悲劇は繰り返され。
Salut mes otaku préférés, s'il y a un manga que la majorité des personnes connaissent, l'ayant vu ou ne l'ayant pas vu, c'est bien sûr Okuto no Ken. Okuto no Ken, c'est ce manga qui dans les années 90 a montré vraiment la puissance des japonais en création, en termes de création de récits. Pour vous rappeler le synopsis pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes à la fin des années 90, il y a eu une explosion nucléaire, la Terre est complètement dévastée, et un seul homme, digne héritier, du Hokuto Shinken, Ken, qui lui va sauver le monde et va tenter vraiment de pacifier ce monde en passant de village en village et en sauvant toutes ces personnes qui malheureusement vivent dans un monde qui est vraiment dévasté par la pauvreté et par les salopards qui pillent et qui violent les femmes, tout ça. Enfin bref, un véritable monde à la Mad Max. D'ailleurs, Mad Max 2 plutôt aura servi de repère à ce superbe récit qu'est Hokuto no Ken. Pour parler de Hokuto no Ken, je me suis dit pourquoi pas pour les 40 ans de la série, oui déjà 40 ans, eh bien je me suis dit pourquoi pas inviter deux experts de Hokuto no Ken. Et ils sont avec moi aujourd'hui, ce sont les scénaristes du livre sorti chez Third Edition, Hokuto no Ken, l'héritier de l'Apocalypse. Il s'agit de Guillaume Lopez et de Paul Gossem. Messieurs, merci d'être venus et comment allez-vous?
Bonsoir.
Ouais,
ça va, super.
Voilà.
Ouais, écoute, top. Et toi, Paul, comment ça va?
Eh ben, ça va super. Toujours quand je suis avec toi. Et puis quand je suis invité dans un bon podcast pour parler d'un bon manga, ça ne peut qu'aller.
Bon, pour l'instant, on sait que le manga est bon. Le podcast bon, on verra peut-être à la fin, vous me redirez.
C'est vrai, on verra. On mettra une étoile ou pas à la fin. On sait pas.
On fera un commentaire Google.
Voilà, j'aime pas me lancer des fleurs. Donc, je vais un peu résumer vos carrières tous les deux. On va commencer par Paul Gossem. Donc, tu es passionné par les films d'arts martiaux et par l'animation japonaise. Tu es chroniqueur et rédacteur pour divers sites et magazines, dont Darkside Reviews, donc enchaînement HK Mania, Movie Endgame, Animeland, et tu as écrit aussi quelques pour lequel tu as écrit quelques sujets, pardon. Et tu as aussi un podcast Racking Fire Club, merci, excuse-moi pour la prononciation, aux côtés de Max Pereira et Jonathan Asia. Tu es membre aussi de la 36e chambre du Cinéphage et tu interviens aussi dans diverses émissions comme Stop Motion, Click dans la légende, et c'est là que je vous ai connus d'ailleurs tous les deux en regardant le replay. De l'autre côté du ring, nous avons Guillaume Lopez, donc créateur de la chaîne Hokuto no Ren, spécialisé dans l'analyse de la série animée Hokuto no Ken, donc, et tu es aussi membre de l'association Annie Grenoble et l'un des organisateurs du Japan Alp Festival. On peut te retrouver aussi dans des magazines comme Animascope et des émissions aussi comme Clic dans ta légende et Rétrocase. Donc voilà, nous sommes bons au niveau du curriculum vitae pour nos deux outsiders aujourd'hui qui vont donc nous parler de leur livre dans les arcanes de Hokuto no Ken, l'héritier de l'Apocalypse, donc un livre où il décrypte ce manga des années 80 qu'est Hokuto no Ken. Alors ma première question dans ce podcast, ça va être comment est-ce que deux personnes comme vous se sont rencontrées et ont commencé à travailler sur Hokuto no Ken?
Tu veux ou tu vas?
Paul, t'es chaud. Chauffe-toi.
Alors, comment on s'est rencontrés? En fait, on a des copains en commun. Que je salue d'ailleurs. Salut Fabien Moreau, salut Bruno Delacroux. C'est des gens voilà, à qui on souvent se parlait. Comme moi, j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup d'Hokuto no Ken. On me disait, putain, mais faudrait que tu rencontres Guillaume qui est à Grenoble. Hein. Donc, moi, je suis à Paris, lui, il est à Grenoble. Donc, on n'était pas forcément proches géographiquement. Ah, bah, oui. mais on a des très bons amis en commun, et donc on s'est souvent, et puis moi je connaissais son boulot parce que je connaissais la chaîne Okuto no Run, parce que j'aime Okuto no Ken, donc je regarde un peu ce qui se dit et ce qui se fait sur le net sur le sujet. Et moi j'ai été en contact avec les gens de Ferd Edition, donc c'est une maison d'édition de bouquins axée et sur les jeux vidéo et sur le cinéma et sur l'animation et tout ça, enfin qui a quand même, qui est assez connu, je pense qu'il n'y a pas besoin de les présenter. Et donc on s'est, moi j'ai, comme j'écrivais pas mal d'articles sur l'animation, sur le cinéma japonais, hongkongais, tout ça, on s'est dit que ce serait peut-être pas mal que je fasse un bouquin. On m'a dit bah écoute, si t'es chaud pour faire un bouquin, nous on est chaud. J'ai proposé pas mal de sujets. Et parmi ces sujets, il y avait Okuto no Ken, et c'est les gens de Ferd qui ont tilté dessus, qui ont dit ah ouais, ça serait vraiment pas mal ça de sortir quelque chose sur Okuto no Ken. Je me suis dit bah ça tombe bien puisque c'est les 40 ans, donc on va essayer de le faire pour les 40 ans. Et j'ai été invité très vite. On cherchait quelqu'un pour parler d'Okuto no Ken dans l'émission Clique dans la légende. Et donc on m'a contacté pour donc faire partie des intervenants, et on a contacté Guillaume aussi parce que c'est quand même un des plus gros spécialistes, je pense, de Okuto no Ken dans le pays. Donc on l'a contacté, et donc là l'occasion a fait le larron, vu que ça faisait longtemps que on nous parlait de l'un et de l'autre par copains interposés. On s'est appelé à ce moment-là, on s'est rencontré, donc un peu on a parlé beaucoup au téléphone de nous, mais aussi d'Okuto no Ken. Et puis donc on a décidé de se rencontrer un peu avant l'émission. Donc il est venu avant qu'on enregistre Clic dans la légende. On s'est rencontré vraiment, on a bu des coups, on a discuté, on a fait cette émission. Et puis de fil en aiguille, ça a bien collé, ça a bien matché entre nous. Et moi j'avais à peine commencé à ce moment-là, j'avais juste soumis mon plan, le plan du livre, qui est d'ailleurs même plus le plan du livre d'aujourd'hui, mais le plan que j'avais proposé à faire, j'en étais là-dessus, quoi. J'ai commencé à bosser le livre avec Guillaume, c'est-à-dire à chaque fois que j'avais quelque chose, que j'avais écrit un truc, que je trouvais un truc, que je lui montrais, je l'appelais, regarde, j'ai écrit ça, j'ai trouvé ça comme source, qu'est-ce que t'en penses, nanana. Et donc, en fait, il le faisait avec moi, mais officiellement. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, il faudrait peut-être officialiser le fait que ce livre, je le fais pas tout seul. Donc, j'ai demandé à Ferd si c'était possible de rajouter un co-auteur, et que finalement ce livre, au lieu que je le fasse tout seul, je le fasse avec Guillaume. Et les gens de Ferd ont accepté le deal, et ça s'est fait comme ça. Donc on s'est retrouvé à faire ce livre à deux de cette manière. Voilà.
Et pour toi, Guillaume, ta version de l'histoire?
Eh bien, il m'a capturé.
Tel un Pokémon.
Non, c'est vrai, on a des potes en commun, et on continue toujours de voir, de parler, de traîner ensemble. Comme tu as souligné lors de la description de mon cas, je suis co-organisateur d'un événement qui s'appelle le Japan Alpe Festival, et puis récemment on s'est réunis entre les poteaux. En septembre dernier, c'était plutôt top. Et c'est vrai que ça fait maintenant depuis Clic qu'on se connaît, on s'était parlé avant tout ça, et ça a matché tout de suite. On parle le même langage avec Paul. Il est amoureux d'Okuto no Ken, et moi je suis amoureux aussi. Et du coup, c'était assez évident au final de se retrouver sur le bouquin. Au départ, j'étais pas sûr, parce que Paul a une plume, il faut le dire, qui est superbe, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais comment on va faire pour s'aligner au niveau de l'écriture? Et on a travaillé ensemble, on a parlé, on est amis, hein, on a bossé à deux sur le bouquin, et ça a fait ce livre-là dont on est plutôt fier, hein, je peux le dire. Et c'est trop cool, l'alchimie est passée. Il avait tellement de choses à raconter sur Okuto no Ken, et moi aussi, que en fait nos conversations qui doivent durer 5 minutes, ouais, au fait j'ai vu ça du Okuto no Ken, ouais, ok, et puis en fait ça dure 2 heures la conversation. Donc donc voilà, c'était évident qu'on fasse quelque chose ensemble, et c'est super. Je pense qu'on n'a jamais autant appris de trucs sur Okuto no Ken que lorsqu'on a travaillé sur le bouquin, c'était fou. On nous envoyait des fois des documents. J'achetais des vieux magazines Anime Land pour une interview de Masami Suda, chara designer de Kutonoken. C'était vraiment une aventure géniale. Alors, je sais que je raconte plus comment ça s'est passé, comment ça s'est fait. Mais alors, avant, c'est vrai que... moi, j'avais ma chaîne et lui, c'est un spécialiste de cinéma et d'animation tout court. Et le fait qu'ils s'y connaissent en... Je vais pas parler à ta place, Paul, après. Qu'ils s'y connaissent en films d'arts martiaux, au Kutonoken, c'est évident qu'il y a quelque chose à apporter en plus d'un simple fan. Il y a un truc important qu'il faut se dire, c'est que quand on parle de manga, hein, il faut pas s'arrêter juste au manga. Il faut aussi... avoir la perspective du film, des films pour lesquels s'est inspiré, enfin que Kutonoken s'est inspiré de ces films, et ben il les avait tout en tête, ces films-là, Paul. Et moi j'étais dans tout cet amour de l'animation japonaise, et ce qui fait que ben toutes nos connaissances mélangées, ça fait le petit bébé qui est sorti chez Serb là.
Voilà. Et de 248 pages, un beau bébé. Hein.
Ouais. On a été. Alors au début, bah, je vais te le dire, on te le dit. Au début, le projet, c'était vraiment de brasser toute la licence avec Sotenoken, Regenesis, vraiment de faire un truc complètement complet. Alors, on a vu quand même qu'on avait tellement de choses à dire sur Kutonoken que le livre allait être énorme, et on s'est quand même retrouvé nous en pleine crise du papier.
Forcément.
On a dit en gros que faire un livre de 600 pages, ça allait pas être possible. Donc on a décidé de se pencher sur Kutonoken et que sur Kutonoken. Parce qu'au début, notre projet initial, c'était vraiment de brasser l'ensemble de la licence.
Oh, bah d'ailleurs, vous l'expliquiez super bien au tout début dans l'introduction, c'était vraiment, comme tu dis, au départ, c'est pas forcément brasser l'ensemble de la licence, c'est vraiment s'occuper uniquement d'Kutonoken et de le faire bien et d'éviter à ce que ce soit vraiment que ça parte dans tous les sens, parce qu'effectivement, la licence après, derrière, est partie vraiment loin. Hormis licence, après, Tetsuhara a fait d'autres titres dont on parlera un peu plus tard dans ce podcast. Donc, c'est vrai que si vous aviez dû parler de tout ça, effectivement, le livre aurait fait plus de 600 pages. Et en pleine crise du papier, ça n'aurait pas forcément été évident.
Surtout qu'il faut rappeler quelque chose, je le dis quand même, c'est que Ferd est un des seuls éditeurs à ne pas avoir augmenté ses prix.
Tout à fait, oui.
Ils vendent les livres... pas plus cher qu'ils le vendaient avant cette crise. Hein. Le papier aujourd'hui vaut beaucoup plus cher, donc ça exige quand même pas mal de sacrifices, et on peut pas se permettre de jouer non plus trop avec voilà quoi. Si on peut, donc et c'est tout à leur honneur. Hein. Nous, ils nous ont dit voilà, ça va être posé un petit problème. Est-ce que ça vous dérange? On leur a dit bah non, on reste limité au Kutonoken. Ça, de toute façon, c'est amplement suffisant. On a assez de boulot à faire là-dessus. Ouais. Mais c'est quand même un éditeur qui a à cœur de pas faire subir à ses lecteurs un gros surcoût de production qu'ils doivent affronter en ce moment. Voilà.
Oui, et puis ils mettent pas la pression aussi à leur auteur. Voilà, c'était.
Non, non, ça c'était un gros bisou à Nico, gros bisou à toute l'équipe. C'est vraiment des gens super.
Donc, Sœur d'édition d'ailleurs, que vous pourrez retrouver aussi en podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Quasiment toutes les semaines, hein, si vous ne connaissez pas, foncez, allez leur donner de la force, c'est vraiment des chouettes types. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que tous les deux, vous avez un peu une histoire, on va un peu plus rentrer dans le vif du sujet, vous avez tous les deux, une histoire un peu à la Tetsuhara et Burunson, c'est-à-dire qu'on vous a réunis, tous les deux, voilà, on s'est dit, tiens, lui, il fait du bon boulot, on va mettre les deux en contact, on va voir ce que ça donne, ça n'a pas forcément le même résultat. Par rapport à l'alchimie qu'il y a entre Burunson et Tetsuhara. D'ailleurs, on va en parler aussi parce que moi, c'est ça qui m'a impressionné en lisant les premières lignes de ce récit, c'est qu'au final, professionnellement parlant, ils n'arrivaient pas à travailler ensemble, c'est-à-dire qu'ils faisaient tout à distance. Et c'est quand même assez rare.
Alors, c'est rare sans être rare, parce qu'il y a beaucoup de... C'était un peu aussi une méthode... C'était une méthode chez la Shueisha, hein. On faisait en sorte que les scénaristes et que les mangaka, c'était le Tanto, hein, alors le Tanto, le chef d'édition,
le directeur d'édition.
le directeur d'édition, ce directeur d'édition, il s'appelait Nobuo Kohari, et c'est une méthode que certains Tanto appliquent. Ils veulent pas que les gens s'auto-influencent, ils payent des gens pour faire des scénarios, ils payent des gens pour faire des dessins, et ils veulent pas que les uns et les autres s'auto-influencent. C'est arrivé sur d'autres mangas aussi que les gens se croisent très peu. Alors sur Hokuto no Ken, oui, ils se sont croisés très peu. Ils se sont pas croisés plus d'une dizaine de fois sur tout le temps de la publication. Et c'est Aurier qui faisait l'intermédiaire entre les deux. Ils avouent, hein, Bronson et Ara, qui se sont parfois parlé en cachette. Bon, attends, Rao, tu vas le faire comment? Qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est vrai que c'est une manière de travailler qui peut être étonnante, mais c'est des gens qui sont des collègues de travail, hein. c'est pas des copains. C'est pas des copains qui ont fait un manga, c'est des spécialistes, chacun dans leur domaine, qu'on a pris pour faire une œuvre. Au départ, c'est Ara qui est là, qui est repéré par Aurier, par la Shueisha et par le Weekly Shonen Jump, parce que c'est un dieu du dessin. Hein, et c'est son trait qui le fait remarquer, un trait très spécifique, surtout pour l'époque, surtout pour le shonen, un trait très réaliste, très détaillé. Hein, on se rappelle que Ara sort de l'école de Koike, donc l'école du Geigika, du manga pour adultes, du manga sombre, du manga avec des dessins, pas du Tezuka, si vous voulez. Hein. Je n'ai rien contre Tezuka, mais on était dans autre chose, on va dire. Lui, c'est le dessin. Et c'est vrai qu'il lui manquait un peu ce talent de conteur à ce moment-là. Parce qu'on verra après, si on voit sur le reste de sa carrière, que lui-même a su raconter des histoires de manière plutôt convaincante. Et donc, on va chercher Bronson. Ils ne se connaissent pas tous les deux. Ils n'ont pas le même âge. Aurier, il est de... il est de 61. C'est un enfant du boom économique. Bronson, il est de 47. C'est un enfant de l'après-guerre et de l'occupation américaine. Enfin, ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas les mêmes références. C'est deux personnes différentes. D'ailleurs, Ara, au début, n'est pas du tout content qu'on lui mette Bronson sur le dos, parce qu'il le considère un peu comme un has-been, en disant... c'est quelqu'un qui a connu des grandes gloires au milieu des années 70, notamment avec des mangas comme Doberman DK, hein, des choses comme ça, mais qui peinait à ce moment-là à retrouver vraiment ce type de succès. Et Ara a quand même dit à Aurier, t'es sûr, Bronson... en fait, finalement, l'alchimie a prise, parce que c'est deux grands professionnels, et qui avaient aussi, attention, un troisième homme, hein. Moi, je pense que Hokuto no Ken, c'est l'œuvre de trois hommes, hein. C'est Ara, Bronson et Aurier. Il faut savoir que l'idée originale de le concept de base de Hokuto no Ken, c'est-à-dire, quelqu'un qui pratique des arts martiaux et qui fait exploser les gens de l'intérieur en appuyant sur leurs points vitaux, c'est l'idée de Aurier, hein. C'est pas l'idée de Bronson ni de Ara. Donc c'est un truc qui se fait à trois. Et d'ailleurs, on verra d'ailleurs qu'après Bronson fera son chemin avec d'autres personnes, par exemple comme avec Ikegami, qui sera vraiment son binôme attitré, on va dire, hein, vraiment quelqu'un à qui il a des atomes crochus, alors que Ara continuera avec Aurier de travailler sur diverses activités.
Effectivement, c'est vraiment particulier cette collaboration, et comme vous le mettez dans le livre tous les deux, à un moment, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire de certains personnages, comme par exemple Toki et Rao. Pendant les premiers chapitres d'Hokuto no Ken, ils ont le visage complètement ombragé, on ne voit pas du tout à quoi ils ressemblent. Et effectivement, une fois qu'on sait que les deux ne se voyaient pas souvent et s'envoyaient des petites choses en mode « Bon, bah voilà, moi, Rao, je veux qu'il soit fait comme ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Au niveau psychologique, Rao, il va être comme ça. Voilà, comment tu veux faire ça ?» Effectivement, une fois qu'on a cette information, c'est vrai qu'on se dit c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait, parce que dans les premiers tomes, Rao et Toki, on les aperçoit très rarement ou vraiment en ombrage.
Après ça, si, c'est alors pareil, c'est... Alors, sur Hokuto no Ken, c'est réel, hein, c'est quelque chose qui s'est fait un peu au jour le jour. Après, il y avait quand même des prémices, parce que Kenshiro, alors moi, je suis pas japonisant, je suis nul en japonais, hein, je sais pas parler japonais, mais Kenshiro, en gros, en japonais, ça peut aussi être traduit par le quatrième fils.
Oui.
Donc, il y avait quand même, on n'avait pas inventé ces histoires de frères. Et lui, d'ailleurs, dans les premiers one-shots, parce qu'au départ, il y a deux one-shots qui sont faits, qui ont fait un gros succès, et qui fait qu'on se décide de faire une série qui, dès le départ, est prévue pour durer 3 ans. hein. Mais au départ, il n'y a pas de frère, il n'y a pas tout ça, mais c'est en germe, on va dire. Et puis d'ailleurs là, les deux premiers one shot, on a un Kenshiro plus jeune qui est étudiant et qui vit dans un monde contemporain. Il vit pas dans un monde post-apocalyptique. Ça, c'est avec discussion avec Brunson que ça viendra. Mais c'est ce que tu disais là, c'est propre au travail de prépublication, c'est-à-dire que les gars, que bah, mais ça a été pareil pour Akira Toriyama, ça a été pareil pour plein de gens qui ont travaillé pour le Weekly Shonen Jump ou pour le Young Animal, sous ce que vous voulez. Je prends l'exemple de Miura. Miura, au début, il commence Berserk. Il commence une aventure. Ah bah j'ai un gars avec une grande épée, il va tuer des démons. Et puis après on a l'arc. Ah mince, l'arc avec Griffith. Comment il s'appelle ça, je suis un trou. Moi,
l'arc avec Griffith.
L'âge d'or. L'âge d'or, ouais. C'est ça.
L'âge du faucon, ouais, le faucon, le kick du faucon là.
Voilà, il fait un flashback. Tout d'un coup, il a cette idée de début en fait. Mmh. Et il fait un flashback pour reprendre à zéro, parce qu'en fait, lui aussi, il invente au jour le jour. Donc, c'est les mangas, pour la plupart, en tout cas ceux qui sont nés de magazines de prépublication, sont faits comme ça. Les histoires sont inventées de semaine en semaine, et les auteurs eux-mêmes savent pas exactement, ils doivent avoir une idée quand même un peu globale de ce qu'ils veulent faire, de la trame, de leur récit, mais ils ont pas les détails, ils ont pas les personnages. Oui, t'as pris des exemples. Pendant très longtemps, Ara disait à Brunson, demander en tout cas à Aurier de demander à Brunson, mais comment je dessine ce Rao et ce Toki, et comme il savait pas exactement, il disait ah bah tu fais un mec fin et un mec balèze,
hein, plus que balèze Rao, hein.
Ouais. Mais et tu les fais ombrager, tu fais que des ombres, mais tu les dessines pas parce qu'on savait pas exactement. Je peux prendre un exemple aussi de Chou, par exemple. Chou, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, moi. Chou, au départ, il est inventé parce que un mec avec des cicatrices sur les yeux, c'est cool. Mais on sait pas du tout si on va en faire un gentil, si on va en faire un méchant. La première fois qu'il apparaît, eux-mêmes ne savent pas ce qui va devenir. Et c'est après.
Quand j'étais plus jeune, je croyais que c'était Ray qui revenait, parce que le personnage a à peu près la même en termes de dessin, il ressemble à Ray en un peu plus stock. Et du coup, quand j'étais tout gamin, je voyais, mais ah, oh, Ray, parce que moi j'adore le personnage de Ray. Je disais, oh là, il revient, c'est cool, oh, après ce qu'il a pris en plus, le pauvre, parce que un tome et demi avant, il prend très très cher.
Voilà, je prends un autre exemple. Rao, comment on invente Rao? Alors, on savait qu'il fallait un Rao. Mais au départ, là, l'idée de Rao, du Rao qu'on connaît, elle est déjà très inspirée après d'un dessin de Frank Frazetta, qui est une des grandes influences de Ara, qui est un dessinateur, un illustrateur américain qui a beaucoup fait dans le heroic fantasy, qui a beaucoup bossé sur les Conan, tout ça, et qui va beaucoup inspirer Ara. Mais au départ, il fait un sabot géant. Voilà, il fait une trace de pas de sabot géant. Il dit voilà, j'ai envie de faire un mec avec un cheval monstrueux. Et donc en fait, on invente le cheval de Rao, Kokuo, avant Rao. Et on se dit bah maintenant qu'on a ce cheval monstrueux, va falloir trouver qui c'est le type qui est capable de monter et de dresser ce machin là. C'est comme ça qu'on crée Rao. Mais donc tout se crée comme ça. Alors encore une fois, ça peut donner des trucs des parfois abracadabrantesques et complètement nuls. Sur Hokuto no Ken, ça marche. Mais je veux dire, sur Dragon Ball aussi, il y a plein de mangas, les Chevaliers du Zodiac, tous ces trucs-là se sont faits de cette manière. Donc, c'est pas propre à Hokuto no Ken. Là, pour moi, c'est le fait qu'on a deux grands bonhommes qui ont fait que la magie prend et qui nous font une épopée pas possible. Parfois même sans s'en rendre compte, parce que il y a plein de sous-textes, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses qui ressortent. Alors bon, je vais un peu plus loin, je digresse, hein, je suis un peu, excusez-moi, mais même sur l'époque du Japon, sur l'époque du monde, c'est aussi un peu l'affrontement entre Rao et Kenshiro et entre leur vision de comment on mène l'humanité à la paix et au salut, on va dire, hein. On est en pleine guerre froide, ces deux visions qui s'opposent et qui rappellent fortement, bah, ces espèces de deux visions qu'on a entre le libéralisme américain et le communisme soviétique, des choses comme ça, auxquelles, bah, c'est sûr que c'est ça. Et quand on interroge Brunson là-dessus, il dit, oh, mais c'est vrai, alors c'est vrai, ça doit être inconscient, mais sur le coup, je m'en rendais même pas compte. Pour le coup, moi, j'ai créé mon aventure. C'est un truc très complexe auquel on n'est pas habitué, mais qui est pourtant finalement très banal dans le monde de la prépublication.
C'est comme ça pour énormément de séries. Déjà, Il faut rappeler que Hokuto no Ken s'est prépublié dans un magazine hebdomadaire, le Weekly Shonen Jump. Et ces séries, donc en fait, c'est un magazine avec 10 séries différentes, peut-être plus, peut-être moins, enfin plusieurs séries du moins, et elles, chaque semaine, elles sont soumises à un vote du public. C'est-à-dire que si elle n'est pas populaire, elle dégage la série. Donc quand on commence à construire une œuvre où le but, c'est de plaire au public, créer des choses pour ne pas... Pour avoir un maximum de votes et toujours être maintenu dans les séries longues du magazine, on pense différemment. On n'écrit pas toute sa série dès le départ. On pense en termes aussi de concept. Donc, ouais. Le concept de Hokuto no Ken, c'était pas de faire tout de suite Mad Max. Non, il cherchait avec il va mieux en parler que moi, Paul, mais Aurier, il arrive et il dit ouais, ben ça serait cool que tu crées ton concept de on appuie sur des points vitaux et le personnage implose. Paul a aussi parlé de Miura avec Berserk. Berserk, il s'est dit qui se revendique un grand fan amoureux de Hokuto no Ken. Il se dit « Ah putain, il faut que je fasse pareil, il faut que je trouve un concept. Moi, je veux un grand mec musclé aussi, mais il ne va pas faire les arts martiaux, lui, il aura une immense épée. » Donc, au départ, quand on commence à imaginer son œuvre en termes de concept et non pas de scénario, de ce personnage-là va faire ci, va faire ça, eh bien, on a une approche vraiment différente de ce qu'on peut avoir dans la bande dessinée, par exemple. Et... un truc qu'il faut absolument savoir, c'est que si ça marche, comme dit Paul, eh ben, ça, la sauce, elle prend et ça crée quelque chose de dingue. Et quand ça marche pas, eh ben, on est très, très vite éjecté. On parlait aussi de Senseiya. Senseiya aussi, à la base, le but, c'est quand même de lancer des jouets en même temps, quoi, en fait. On lance sa série en même temps que des jouets. Bien sûr, et ça, c'est pas Senseiya qui l'a inventé non plus. Si on commence à revenir en arrière, il y a toujours des raisons pécuniaires. Hein, Goldorak, troisième saison des Gren Daisa et tout ça, hein, c'est des commandes pour avoir des nouveaux jouets robots, en fait. Donc, il faut jamais oublier que le but de ces œuvres d'une époque qui ont marqué les gens, eh ben, c'était aussi dans le but de générer un de l'argent, avoir du succès. Et ensuite, si on arrive à trouver un message dans l'œuvre, ce qui est vrai, ce qu'il y en a, eh bien, c'est bonus. On est là pour analyser ces choses-là, après tout.
Non, c'est vrai, t'as tout à fait raison, effectivement. Mais pour moi, de toute façon, Hokuto no Ken a ouvert les portes derrière à un style de manga qu'on n'avait pas avant. Avant qu'Hokuto no Ken arrive en France, on avait des mangas un peu plus enfantins. Il y avait de la violence quelque part. On avait par exemple Senseiya, je ne sais plus si c'est de la même époque ou pas.
C'est un peu après. C'est d'ailleurs un enfant d'Hokuto no Ken.
Mais qui ne l'est pas. Fidèle.
Il y en a qui ne sont pas, il y en a beaucoup qui le sont. Alors ouais, mais je suis d'accord, mais en fait surtout là, c'est nouveau dans des magazines de pré-publication adressés à la jeunesse. Mais je veux dire la tradition du Gekika, des gens comme Koike ou des gens comme Otomo, ils sont déjà là. Mmh. Otomo, il sort Akira en 82, mais avant ça, il a sorti Domus. Le manga adulte existe déjà. La nouveauté avec Hokuto no Ken, c'est que Ara ramène, et Brunson avec lui, dans le shonen, dans un magazine fait à la base pour des jeunes garçons, des choses qui normalement ne s'y trouvent pas.
Bah oui.
On avait Cobra aussi avant Hokuto no Ken.
Cobra, Terasawa, exactement. Qui est un grand d'ailleurs, un grand modèle pour Ara. Hein. Ara, la première chose qu'il fait quand il essaie d'essayer de devenir assistant de Terasawa, qui nous a quittés d'ailleurs il y a 2-3 mois, hein, qu'il repose en paix. Mais voilà, c'est cette école-là. La mise en image et en concept de choses qu'au départ, on n'est pas habitué à voir dans le shonen, les neketsu traditionnels, on va dire.
Non, bien sûr. Bah, on rajoute beaucoup plus cette violence qui, d'ailleurs, va très vite assez impressionner tout le monde. Parce que même au Japon, je pensais pas qu'au Japon, ils étaient aussi assez stricts sur ça. Je pensais qu'ils avaient envoyé ça, voilà. Il savait que c'était violent, mais je ne pensais pas que ça avait fait un peu légèrement comme en France. En France, avec Abe qui avait acheté à tour de bras des mangas au début des années 80 pour les mettre sur le Club Dorothée, on s'aperçoit qu'en fait, bah, les doubleurs français voient la violence morale, physique du manga. Du coup, ils essayent de trouver un moyen pour un peu aseptiser tout ça pour des enfants, même si bon, ça... On a beau, voilà, hein, on a beau mettre des petits passages de dialogue rigolo, la tête du maître, elle explose quand même. Hein, donc. C'est pour ça que c'est pas forcément évident à ce niveau-là.
Il y avait déjà d'autres plaintes. Enfin, quand ça a créé des chocs, Tetsuhara a des pères aussi. Il a révolutionné quelque chose parce qu'il a été aussi extrêmement populaire. Il est arrivé au bon moment et il est la somme d'énormément de choses qui marchaient à cette époque. Mais il faut pas oublier que Go Nagai avait déjà aussi donc le papa de Goldorak, Devilman et aussi Violence Jack. C'est déjà présent et il avait déjà essuyé bon nombre de parents choqués de voir des récits coquins dans des trucs pour enfants, quoi.
Donc quand Venaga il sort l'école impudique, je peux te dire que ça fait du bruit, hein. Des œuvres très sombres, je pense à Chitano Joe, des choses comme ça qui sont aussi les parents, hein, de Hokuto no Ken, hein, c'est-à-dire bien sûr qu'il a apporté ça, qu'il a révolutionné complètement le shonen, mais il a ramené des choses dans le shonen qui existaient déjà dans le manga, en fait.
Oui, bien.
Okay. Comme je dis, je rappelle, lui, c'est l'école, bon, Terazawa, c'est une grande influence pour lui, mais c'est surtout l'école Kazuo Koike. Kazuo Koike, c'est Lord Wolfenkopf, Baby Cart, c'est Lady Snowblood. Pour les gens qui connaissent, c'est pas des trucs où on rigole.
Ça décode zéro. Ouais.
Effectivement, ouais. C'est un peu particulier parce qu'en fait, quand on se dit que même au Japon, comme je le disais tout à l'heure, même au Japon, et pourtant il était diffusé à une heure, il était diffusé à une heure de grande écoute, vu que je crois que c'était vers 19-20 heures qu'il les diffusait au Japon, au Japon, ça a posé problème. Et puis après, derrière, voilà.
Alors, c'est surtout au Japon, c'est le manga lui-même qui a posé problème. C'est-à-dire, lors de la publication, on a eu quelques associations de défense des droits, de la morale des enfants, Dieu ne sait quel machin. On dit, quand même, c'est dans un magazine pour les gosses de 7 à 10 ans, on va dire, hein. À base de shonen, c'est un peu ça la cible. Pour les très jeunes garçons, c'est très violent, c'est très cruel. Mais, comme le dit Guillaume, ça embarrassait pas plus que ça finalement au Japon la Shueisha, qui avait déjà eu affaire à ce genre de problème avec Go Nagai justement, par exemple, hein, qui a défrayé la chronique, qui a fait scandale à son époque. Donc on était quand même plus habitué à ce genre de choses. Là où ça a vraiment posé un problème, où on en a fait un scandale national, c'est en France. Hein, en France, c'est au départ d'ailleurs pas Hokuto no Ken qui commence à en faire les frais, c'est Kinnikuman, Muscleman, hein, ouais. Parce qu'il y a des croix gammées, hein, alors là tout de suite, donc il y a des croix gammées, donc c'est nazi, et on a aussi quand même, on est dans une époque où on est encore quand même très dans le péril jaune, l'invasion de ces trucs du Japon. Alors il n'y avait pas que les à l'époque, hein, je vous rappelle, c'est le début des années 80, le Japon, selon certains esprits très ouverts, on va dire. Hein, ils nous envahissent avec leur magnétoscope bon marché, ils nous envahissent avec Nanini, et puis ils nous envahissent avec leurs dessins animés débiles, et puis regardez, mettre des croix gammées, même quand il y en a pas, ils les voient, même quand il y en a pas, et leurs trucs violents, donc il y avait ce truc qui est vrai, que Hokuto no Ken, c'était pas forcément destiné au public auquel s'adressait le Club Dorothée, on va dire. C'est vrai, mais en plus de ça, en fond de tout ça, il y a quand même une espèce de xénophobie, c'est un grand mot, mais de force a priori sur ce que pouvait être la culture japonaise et cette soi-disant invasion cette nouvelle puissance qui s'imposait économiquement. Il y a aussi tout ça derrière. Hein, donc Et donc la cible a été Okutonoken. Oui, on a eu des ministres, des machins qui sont venus à la télé parler d'Okutonoken, écrire des livres. Ségolène Royal, ministre à la qui était ministre sous Mitterrand, qui s'est d'ailleurs présenté aux élections présidentielles et qui a fini au second tour quelques années plus tard. Hein. Elle a écrit un bouquin, le ras-le-bol des bébés zappeurs, et voilà, et ça crachait à tour de bras sur Okutonoken, qui était un abêtissement de la jeunesse. Oh là là, regardez ce que les Japonais font. On regardait à nos enfants.
On a eu ce même débat après dans les années 90, début 2000, avec les jeux vidéo qui étaient trop violents pour les enfants. Ouais. Voilà, on a eu exactement le même débat. Il y a peut-être eu un peu moins de conséquences parce que voilà, forcément, on a eu l'habitude, comme tu dis, une espèce entre guillemets, hein, bien sûr, une espèce d'invasion asiatique en France avec des magnétoscopes, voilà, une nouvelle façon de voir le monde, parce que c'est une culture complètement différente, et je reste persuadé que la majorité, par exemple, tu parlais de l'histoire de la croix gammée, pour moi c'est une histoire de culture, dans le sens où est-ce qu'ils n'ont pas confondu ça avec une svastika. Typiquement, souvent beaucoup de gens font cette erreur, et malheureusement, bah oui, en France, tu as
les choses font comme ça. Je regarde aujourd'hui Jujutsu Kaisen où il y a des svastikas, ça pose pas de problème, on n'en parle pas.
Non mais le vrai problème c'est que avant ceux qui détenaient les droits de la bien-pensance étaient des vieux ringards qui n'avaient pas du tout envie que le Japon puisse croquer dans leur part du gâteau. Ils avaient envie de faire de l'argent sur des dessins animés français ou importer des trucs américains, mais le Japon, quand tu les achètes au kilo, c'est beaucoup beaucoup moins cher. Sauf qu'en fait, oui, quand ils les passent et que c'est pas dans la culture, leur culture, et que pour eux dessin animé égale enfant, et ben ils voient ça, ils disent bon bah ok d'accord, c'est très space, mais ça fait de l'audimat, venez on fait tout moyen pour aseptiser la violence, alors on va passer par des censures innombrables sur des séries comme Saint Seiya, Dragon Ball et Okutonoken, et du coup aussi ça passe par évidemment la VF, les VF d'autrefois qui devenaient des parodies des séries elles-mêmes. Sauf que nous, quand on est gamin et qu'on regarde ces dessins animés, on s'en rend absolument pas compte. Paul peut en témoigner. Oui. Quand il regardait Okutonoken, il se disait pas ah, putain, c'est rigolo, tu vois. Il voyait un truc épique et des mecs se mettre sur la tronche.
Le fameux couteau à viande. Ouais. Les temps, c'est comme les œufs durs et la bêtise n'a pas de nuit. Enfin bref, les choses comme ça.
Il y en a eu plein, ça. Mais sur le coup, c'est vrai. Alors moi, je l'ai connu à la sortie. Moi, je l'ai pris en pleine gueule. Ça a été. Alors moi, j'étais déjà. Mon héros, c'était Bruce Lee. Hein. Donc, moi, j'adorais les animés qu'on n'appelait pas des animés d'ailleurs à l'époque. Hein. Et j'adorais les films de kung-fu, Bruce Lee, Jackie Chan. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu Okutonoken, c'était le rassemblement des deux, donc c'était l'évidence même pour moi. Mais je veux dire, c'est quelque chose de très hypocrite, ce qui s'est passé à ce moment-là. Je prends un autre exemple, de Nicky Larson. Mm-hmm. Nicky Larson, c'est un truc très olé olé, on va dire, et on a donc aussi PDVF, on ne peut plus bizarroïde, pour aseptiser ce côté un peu érotique, même le mot est un peu trop gros, mais tu comprends ce que je veux dire. Dans le même temps, vous étiez donc pas né, vous avez pas vu, mais par exemple, dans la même émission, on avait un truc qui s'appelait Salut les musclés.
Oui.
Alors, je sais pas si vous connaissez. C'était une série live française, produite par AB avec des musiciens de chez AB qui s'appelaient les musclés, et c'était proposé aux enfants, et excusez-moi de mon vocabulaire, on va le dire, on est entre grandes personnes, mais c'est l'histoire de 5 ou 6, je sais plus combien ils étaient, quadras, voire quinquagénaires, qui essayaient de baiser tout ce qui bougeait.
Ça
ne posait aucun problème. Je veux dire, la merguez partie, on sait tous ce que ça voulait dire, la merguez, et ils nous chantaient ça, viens me voir à la merguez partie, quoi. Et là, il n'y avait pas de problème. Par contre, quand Nicky Larson, il disait à une fille qu'elle était très jolie, tout d'un coup, c'était un scandale. Donc, on était quand même un peu dans cette époque-là aussi. Et Okutonoken a fait les frais de cette époque-là.
Okutonoken et par la suite, le Club Dorothée, AB Productions. Enfin bref, il y a eu tout un échange médiatique après derrière. Souvent, à tort, parce que je trouve que au fur et à mesure des années, il y a des histoires qui ont été racontées. Moi, on m'avait toujours dit, c'est Ségolène Royal qui a fait une intervention à la télé et dès le lendemain, Club Dorothée avait été supprimé, ce qui n'est pas du tout ça. C'est non, vraiment non, c'est... au fur et à mesure des mois qui sont passés, elle a écrit un livre, etc. Il y a eu tout un...
Et puis, à un moment donné, on a décidé d'annuler donc, la série Okutonoken, ce qui fait que c'est pour ça que les gens n'ont pas eu l'arc de Shura en dessin animé, qui est, d'ailleurs, au niveau de la VF, beaucoup mieux traduite. Alors, c'est pas une VF extraordinaire, mais au moins, elle est respectueuse de l'œuvre, ce qui n'était pas le cas de Okutonoken. Mais ces gens-là, alors, Philippe Auguste, on va pas le blâmer. Le monsieur est décédé, paix à son âme. Et puis, c'est quelqu'un quand même qui a fait vibrer plein de gosses pendant tellement longtemps. Parce que, alors, lui, il en a doublé des animés. Mais jusqu'à la fin, et même quand le manga était installé, quand Okutonoken, c'était officiellement un grand manga, un grand machin. Chaque fois qu'il en parlait, c'était avec un dédain manifeste, quoi. Donc, de toute façon, c'est des gens qui... Il faut se le dire, hein, à l'époque, être doubleur de dessin animé japonais, c'était la honte.
Il n'y avait pas la même hype que maintenant. Maintenant, il y a une grosse hype sur les comédiens.
Honteux, hein, on le mettait pas sur son CV. Hein.
Non, c'est ça. C'est ça, voilà. Effectivement.
Alors, juste pour...
Vous voulez rajouter quelque chose, Guillaume?
Oui, bien sûr, juste un petit truc. Alors, c'est pas Shura n'a pas eu de VF, c'était en fait le dernier arc du combat Rao contre Ken. Donc, il restait 20 épisodes, quelque chose comme ça, qui n'ont pas été adaptés en VF. Donc, c'était la fin de la première partie de Hokuto no Ken qui n'avait pas eu de VF, qui a été rectifié quelques années plus tard en passant sur la chaîne manga et qui est disponible dans le beau coffret qui était ressorti pour l'occasion. Donc il y a une bonne VF pour la fin de Hokuto no Ken.
23 ans
aussi dans les trucs de rectification, j'aimerais reparler de quelque chose. C'était quand tu as parlé de quand tu as fait le résumé de Okuto no Ken, tu as dit que Ken était un héros qui allait sauver le monde. Il n'a pas du tout cette ambition-là. Il ne veut pas sauver le monde. Il n'épouse pas le drapeau du sauveur des innocents. Il se balade à la recherche de son amour. Et
c'est une vengeance, oui.
Qui arrive, qui se passe. Il faut aller sauver la princesse. C'est plus dans cette optique là et au bout d'un moment, quand il apprend que sa célèbre princesse n'est plus là, eh bien il va errer. C'est une âme errante, et quand il sauve les gens, il le fait parce que ça se passe devant lui. Il va pas courir pour aller sauver le monde. Et aussi, c'est pas juste une bombe nucléaire qui a explosé, qui a fait que le monde est comme ça. C'est, d'après mes souvenirs, je crois que tout a pété de partout, en fait. Il n'y a pas qu'une seule bombe.
Oui, c'est l'effondrement de... Oui, c'est...
Donc, voilà,
l'effondrement de toute la société.
De tout ça. Ce qui était rigolo, c'est justement quand on parlait au départ de qu'est-ce que a apporté, qu'est-ce qui a révolutionné un peu le manga du Shonen Jump, c'est que justement, c'était pas un héros joyeux, c'était pas un héros qui était un héros pour sauver le monde, c'était quelqu'un de réellement mélancolique, qui était quasiment jamais souriant et qui a dû endosser ce rôle de sauveur malgré lui. Donc il y a quelque chose de très différent d'un héros comme Seiya, d'un héros comme Goku, d'un héros comme d'autres personnages de shonen, d'aventure baston. Eh bien, Kenshiro, il était vraiment très très différent de ces ces images qu'on retrouve encore aujourd'hui. Je veux dire que aujourd'hui, les gros succès qui marchent sont plus des héritiers de Dragon Ball. On retrouve rarement des personnages comme Kenshiro, des adultes qui vont vivre des histoires d'adultes et qui ont pas toujours la prétention de vouloir sauver la planète, quoi.
C'est vrai que Kenshiro, lui, il a pas endossé ce rôle de héros. On l'a forcé à devenir au fur et à mesure du récit, ce héros, et encore, il a plus le caractère d'un anti-héros peut-être que d'un héros.
Et surtout, c'est un héros, alors ça on l'a déjà dit, mais je le répète, Kenshiro, c'est un héros qui finalement arrive à sauver le monde, on va dire, sauf qu'il sauve pas du tout ceux qui l'entourent. Hein. Les gens qu'il aime meurent, Ray meurt, Chou meurt, ses frères meurent, et Kenshiro ne sauve pas les siens, quoi. Donc,
c'est terrible.
C'est exactement le contraire. C'est quand même exactement le contraire du shonen de base, quoi, au niveau des canevas scénaristiques. Donc c'est tout ça qui fait que ça arrive et que c'est une bombe, quoi.
Ah bah là, en plus, on a l'habitude, on a, comment dire, le temps de s'attacher au personnage. Je reprends par exemple Ray, même s'il fait une courte apparition dans le manga, par rapport à la totalité du manga, on a le temps de s'habituer à lui, à le connaître, à apprécier le personnage, voilà, avoir toutes ses facettes, parce que chaque personnage de Kutonoken a une histoire psychologique vraiment énorme. Et d'un coup, on nous le retire, quoi. En quelques épisodes, voilà, stop, il y a plus de Ray. Et puis voilà, c'était un peu un peu Game of Thrones, quoi. Où on a l'habitude de
se faire un personnage. Ray, c'est une histoire. Alors, je sais même plus si on le dit ou pas dans le bouquin, ça. Mais voilà, Ray, c'est une histoire. C'est voilà, quoi. Ara, il pleure presque quand il reçoit le scénario de Obu Ronson. Il dit putain, il nous a tué Ray, quoi. Et même lui, il dit, j'ai mis toute ma tristesse dans ces planches-là parce que j'étais moi-même complètement fou de perdre ce. Il me le tue, quoi. Donc, c'est ça qui est marrant, c'est que il vit l'histoire pratiquement en même temps que, pas en même temps que le lecteur, mais il la vit comme lui, c'est-à-dire qu'il découvre au fur et à mesure qui disparaît, qui ne disparaît pas, et là-dessus, Bronson, il blague pas, quoi. Donc,
ça se ressent dans son dessin de toute façon.
D'ailleurs, un des derniers propos de Ara, j'ai vu une petite news traîner. Ouais. Y a souvent la question de l'intelligence artificielle en ce moment qui peut faire des prouesses en termes de dessin, de ci, de là. Et il est intervenu et il a dit y a un truc que peut pas faire l'intelligence artificielle, c'est de mettre toute son âme, sa douleur et de dessiner jusqu'à en crever pour son œuvre. Et bien, je trouve que ces personnages, on ressent tout l'amour que l'auteur avait pour ces personnages et c'est toujours avec difficulté qu'on dit adieu justement à l'encourage et aux amis de Kenshiro, le salaud qui n'arrive pas à les sauver, putain.
Mais en plus la double page où Ray meurt et où on voit son visage en grand dans la nuit étoilée, elle est magnifique, cette double page, franchement.
Sauf à la toute fin, mais je le dirai pas. Sauf à la toute fin du manga, il arrive à sauver deux personnages que j'adore et qui sont là depuis le début. Mais
lisez Okutonoken pour pouvoir découvrir les deux personnages que Tetsuo Ara et Bronson ont sauvés.
Ça fait un peu contre-pub, mais notre bouquin n'est pas là pour résumer toute l'histoire de Okutonoken.
Bien sûr. Et c'est ça qui est très bien.
Nous, on revient vraiment, donc il y a deux parties assez distinctes. Je ne sais pas si c'est le moment où on peut faire un peu de...
Vas-y, pour le
bouquin, mais voilà, ça ressemble à ça nos livres, hein, voilà. Donc c'est le même contenu, sauf que ça c'est une version first print. Une fois qu'il y aura plus d'édition, ça n'existera plus, et c'est celle-là que vous pouvez trouver un petit peu de partout.
Je vous conseille d'aller sur internet pour regarder, parce que étant en podcast, malheureusement vous ne pourrez pas voir les deux récits.
Mais pourquoi on est en vidéo alors? J'ai rien compris. Je me casse, moi. Je suis encore habillé. Putain, j'aurais dû me mettre à poil.
Alors, ce que je te propose, Guillaume, à ce moment-là, c'est qu'au moment de faire la promo du podcast quand il sortira, de mettre la photo avec les deux récits pour qu'on puisse bien comprendre.
C'est pas grave. En tout cas, vous savez, chez Sird, il y a toujours une version first print. Ouais. Et l'autre, donc voilà, bon, c'est pour dire que c'est le contenu, c'est le même, mais on va parler plutôt du contenu. Le bouquin, il est séparé un petit peu en deux, hein, donc il y a toute une première partie où on va revenir, Paul, je pense que tu pourras compléter ce que je dis plus tard, si j'ai dit des bêtises, tu reviens dessus, mais la première partie, c'est bien, on raconte l'histoire des deux auteurs, leur Tetsuo Ara, Buronson, Aurier, puis hein, tout ce qu'ils ont, enfin leur biographie un petit peu, leurs œuvres, qu'est-ce qui les a amenés jusqu'à Okutonoken. les grandes thématiques. On parle beaucoup justement d'amour, d'arts martiaux, de cinéma d'arts martiaux. Il y a vraiment plein de choses. En fait, c'est vraiment un complément. Si on a lu la série, on trouve ça, ça apporte quelque chose. Et si on n'a pas lu, on se dit, punaise, bah, peut-être que toutes ces références qu'on va citer, toute l'histoire qu'on va parler de ces auteurs, bah, va donner envie de lire. Dans tous les cas, on peut s'y retrouver si on n'a pas lu la série ou si on l'a lu. Mais bon, on conseille toujours aux lecteurs de lire l'œuvre. Hein. Voilà. Ah oui. Et ensuite, il y a une deuxième partie où on parle de tout ce qui est de l'art en mouvement de Kutonoken, donc que ça soit la série, les films, le live. Et du coup, on a essayé d'être assez exhaustif là-dessus, mais il n'y a pas tout. On a dit qu'il n'y avait pas des Sotennoken, il n'y avait pas de Regenesis, il n'y avait pas plein de choses. On se concentre vraiment sur l'œuvre et leurs auteurs.
Ouais, voilà, c'est en gros le livre, hein, c'est une analyse historique, thématique de comment Kutonoken s'est fait, qui sont les gens qui les ont fait, quelles sont leurs références, quelles sont leurs aspirations. Et Kutonoken, bien sûr, on est obligé de parler de certains pans de l'histoire de Kutonoken pour expliquer aux gens ce dont on est en train de parler, mais loin de nous l'envie de... J'ai déjà vu ça moi dans des livres et ça me saoule, les gens qui me re-racontent l'histoire d'une œuvre.
Bah oui, ne serait-ce que
par respect pour le travail de Burunson et Hara, si vous voulez connaître l'histoire de Kutonoken, lisez au Kutonoken. Il y aura personne qui vous la racontera mieux qu'eux. Et donc nous, notre but, c'était d'aller plus loin que ça. C'est pour ça qu'on a dit dans les arcanes de Kutonoken, c'est-à-dire qu'on va aller fouiller et voir ce qu'il y a derrière, aller gratter, voir pourquoi Kutonoken s'est né, comment c'est né et de quoi c'est né. Voilà, en fait, en gros, le but hein, vraiment de ce livre, c'est ça.
Et vous le faites vraiment bien. D'ailleurs, je viens de regarder, il reste encore des first print. Alors, dans le first print, vous aurez bien sûr le livre et vous avez du coup une couverture cartonnée et aussi un ex-libris d'une illustration de Daniel Warren Johnson.
Exactement. D'ailleurs, très honoré que Daniel Warren Johnson ait accepté de faire cette superbe first print, qui est la version classique est d'ailleurs aussi très jolie.
Oui, bien sûr.
Bon, c'est quand même, ouais, pour ceux qui connaissent un peu le monde du comic, de Dark Horse et tout, voilà, Daniel Warren Johnson, c'est pas n'importe qui. Et donc, on est super content d'avoir ça. Rien que l'objet est très beau. Après, bon, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est selon si on appréciera ou pas, mais pour ce qui est de l'objet, vraiment on est très content de ces couvertures.
Et si vous, et au pire, si vous aimez pas la couverture de Daniel Warren Johnson, c'est une jaquette réversible et vous aurez de l'autre côté la jaquette de l'édition normale qui, moi ma préférée personnellement. Je trouve qu'elle représente bien le personnage torse nu avec les 7 points de la grande ours. Je trouve que ça représente mieux le personnage dans le mouvement. Mais l'édition first print est magnifique. Guillaume, tu parlais de live action. Effectivement, on va passer à ce pan de Kutonoken, parce que bon, forcément, qui dit manga historique dit à un moment des réalisateurs hollywoodiens, taïwanais, japonais, de n'importe quel univers veulent bien sûr refaire à leur sauce Kutonoken. Et pour ça, je me suis dit pourquoi pas faire venir un petit invité supplémentaire qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui m'a envoyé un petit message pour vous. Il s'agit de Jazz du podcast High Kick dans ton podcast, donc qui parle de films de combat en général et qui s'est intéressé de plus près au live action Kutonoken. Je vous laisse l'écouter, donc High Kick dans ton podcast, donc le podcast qui met les pieds souvent où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Je vous laisse écouter ce qu'il a à dire.
Hello Pili, je suis très heureux de faire un caméo dans ton podcast pour te parler de l'adaptation live officielle de Kutonoken.
Nani ?
First of the North Star est, comme qui dirait, la première adaptation officielle de Ken le Survivant, et c'est un peu triste quand on voit le résultat final. Bien évidemment, je mesure mes paroles quand je parle d'officiel, car il y a eu quelques dérivés, dont le fantastique The Story of Ricky, film HK de 1991, caractérisé par sa catégorie 3 et sa violence extrême. First of the North Star est un direct-to-video sorti en 95, adaptant librement le premier arc du manga et faisant passer Shin pour le gros big boss qui tue le maître de Kenshiro, Ryuken.
Tu es venu pour me tuer.
Bienvenue dans le futur.
En ces temps proches de demain.
Un nouvel ordre est en place. L'innocence n'a aucune chance.
Allez, vite!
Viens!
Seul le chevalier de Vega peut ramener la paix.
Tu es le chevalier de Vega!
Je suis là pour mettre fin à tes projets.
Tu vas mourir.
Arrêtez !
North Star.
Kenshiro !
Alors, je tiens quand même à dire que cette adaptation reste pour le moins meilleure que celle de Dragon Ball. Hein.
Nani ?
Elle a comme atout un humour involontaire, en commençant par la coupe mulet de Kenshiro qui ferait passer le personnage pour le sosie de Pascal Ometa. En vrai, ce film pourrait être une retranscription post-apocalyptique du match OMVA de 1993. Le deuxième fait humoristique est le budget. Le film a été tourné dans un studio à Los Angeles durant 30 jours et montre ses limites en exposant des décors identiques, des effets spéciaux bas de gamme et un casting faisant très série B, voire Z. Gary Daniel, karatéka phare des vidéoclubs, se glisse dans la peau de Kenshiro et reste peut-être le seul acteur potable du film. Et ce malgré la présence de Malcolm McDowell ou encore de Chris Penn. Mais le comble du ridicule est la présence de Costa Mandylor qui joue Shin et qui aurait dû choisir un autre métier que celui d'acteur. Il en fait des caisses et ferait passer le personnage du manga pour un type plutôt calme, tout droit sorti d'un film de Godard.
Julia, je n'avais pas fini de construire la rambarde de Julia.
Le long métrage se termine par l'affrontement entre Ken et Shin, un combat faiblard filmé avec les fesses et visuellement fauché. Vous l'aurez compris, ce nanar de compétition a mal été reçu par la critique et par le public et reste encore aujourd'hui un rendez-vous manqué.
You're already dead.
Salut Pelli.
Il y va pas avec le dos de la cuillère, hein. Il a pas forcément aimé cette partie de Okuto, ce film live d'Okuto no Ken, donc First North Stars.
Alors non, alors tout de suite il faut mettre un point dessus. Ça s'appelle pas First, c'est Fist, le point.
Fist. Oh, autant. Oh là.
En First, c'est le premier, mais on parle du Fist of the North Star, qui est le nom américain de Okuto no Ken.
Le point d'étoile du Nord, en fait.
Ouais, voilà.
Ah, oui. Bon, bah, donc, Chess s'est trompé, vraiment. Désolé pour lui, ouais. Désolé pour lui.
Non, mais après, bon, moi, je peux... Alors, c'est un film qu'il faut remettre à sa place. Nanar, j'irais pas jusqu'à dire que c'est un nanar, moi, personnellement. Ouais. Donc... Après, mais bon, chacun son appréciation de la chose. C'est une petite série B très médiocre qui est faite pourtant avec beaucoup d'amour et qui est pas faite par alors tout le respect que je dois à Aja, c'est que bah il le dit lui-même après casting Z. Bah quand t'as Chris Penn et Madsen dans ton film, t'as pas un casting Z. Le film est raté à plein de et puis t'as pas un réalisateur Z. T'as Tony Randall. Tony Randall c'est quand même Monsieur Hellraiser 2, qui est pour moi un sacré morceau de film d'horreur, qui a d'ailleurs des errements très bis, mais qui font tout son charme. Je dirais que c'est une petite série B qui a pas eu les moyens de faire ce qui devait être, et qui devait pas être ça au départ. Hein. Au départ, le projet, c'était quelque chose qui devait être... C'était un projet qui devait être donné à Chris Wong, qui est le réalisateur de Guyver. Je sais pas si tu connais Guyver.
Du tout.
Non. Alors, je te conseille. Hein. Alors, c'est du tokusatsu en fait américanisé. On a d'ailleurs la présence de Mark Hamill dans Mark Hamill de Luke Skywalker hein, oui. dans la série Guyver. Il y a deux tomes et qui devait être interprété par Mark Dacascos. Et ayant vite compris, ça aurait donné forcément autre chose avec ces deux bonhommes, je pense. Ayant vite compris qu'on leur laisserait pas le budget ni le temps pour faire ce qu'ils voulaient, ils ont finalement abandonné le projet, qui est tombé entre les mains de Tony Randall, qui a fait ce qu'il pouvait, mais qui bah, qui connaît pas Okuto no Ken, qui ne comprend pas Okuto no Ken, qui est quelqu'un qui vient du film d'horreur, et d'ailleurs ça se voit dans le film. C'est-à-dire qu'on a des relents un peu horrifiques, on a Ryuken qui arrive en fantôme, on comprend pas bien pourquoi, on a des choses comme ça. C'est un film qui a pas réussi à filmer son action, mais alors moi qui suis un grand amoureux de cinéma hongkongais, je te dirais que ça m'étonne pas plus que ça, parce que les Américains ne savent pas filmer l'action. L'action à main nue, je veux dire le combat à main nue.
Le combat, hein. Oui, oui.
Je suis désolé, moi, John Wick, les Hongkongais faisaient mieux en 1975, quoi. Donc, moi, ça fait pas que les Américains aient pas réussi à chorégraphier Okuto no Ken, ça me dérange pas trop, mais ils l'ont fait sérieusement. Il y a un maître en arts martiaux qui était là, Gary Daniel, c'est pas un manchot, c'est pas un mec qui sait pas se battre, qui sait pas donner des coups de poing. Le résultat est ce qu'il est. C'est pas un film que j'apprécie particulièrement. Après, je trouve qu'on lui fait quand même une réputation. Dire, ça vaut n'importe quelle série B de bagarre à l'américaine qui remplissait les étagères des vidéoclubs dans ces années-là. C'est pas plus que ça, quoi. Enfin, je pense que Guillaume aura beaucoup plus de choses à en dire c'est quand même lui qui sait. Son avis est pertinent, hein, y a pas de problème. Et puis il est partagé.
Dommage pour Jazz, il n'atteindra pas le point Dragon Ball Evolution, malheureusement, avec le film Okuto no Ken.
Ah ouais, Dragon Ball Evolution, c'est encore d'autres problèmes.
C'est encore autre chose.
Je vais laisser Guillaume, je suis sûr qu'il a plein de trucs à dire super intéressants, parce que on va le dire. C'est quand même lui qui s'est bien occupé de triturer et d'analyser. Ouais.
Mais Guillaume, toi, on va parler juste avant le podcast, tu me parlais d'un film taïwanais, toi.
Je voulais revenir sur le film de Tony Randall, parce que c'est très important qu'on sache que si les gens donnent cette réputation de plus gros nanar de tous les temps, c'est faux, c'est factuel, c'est faux. Il y a bien pire que North Star, la légende de Ken le survivant. Non, il y a bien pire que ce film. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce film et les Japonais aussi. Il faut savoir que pour ce film-là, Burenson et Hara, ils sont allés voir Gary Daniels et ils ont dit on voyait personne d'autre que toi pouvoir incarner Kenshiro. Donc, et pour les 40 ans de la série, le film est repassé sur les chaînes japonaises. Donc on repasse pas ce film-là pour se moquer, on repasse non, parce sûr, que en fait les Japonais sont toujours fiers quand il y a une adaptation, toujours peut-être pas avec justement Dragon Ball Evolution, mais ils le perçoivent pas comme ça, même quand on peut lire quelques critiques sur X, le anciennement Twitter, les Japonais ils disent mais pourquoi les Occidentaux ils pourrissent ce film, on comprend pas, et il y a plein de choses intéressantes dans ce film, il y a des matte painting qui sont pas dégueux, t'as des petites idées par-ci par-là qui sont sympas, et j'ai réévalué le film. Pourquoi ? Parce que justement, bonne transition, j'ai vu récemment un film dont on ne parle pas dans le bouquin, et c'est plutôt pertinent puisqu'il y a une version taïwanaise. Nous, on parle du film coréen qui s'inspire du film de 86 de Okuto no Ken, le film animé. Donc le film coréen, c'est un film réalisé en 93 par Wang Ju-yong, qui avait aussi fait une adaptation de Dragon Ball et qui n'a pas beaucoup d'argent. Mais j'ai découvert en fouillant dans les tréfonds d'Internet une version, je crois, taïwanaise de Fist of the North Star. Alors, j'en avais déjà entendu parler il y a très longtemps et j'avais regardé, en effet, quelques extraits du film où je me disais, mais c'est impossible, ce n'est pas Okuto no Ken. Bon, pour avoir retrouvé un lien du film sans sous-titres qui dure 1h20, je l'ai regardé entièrement récemment. Et si on croit que le film de Tony Randall est mauvais, je vous conseille du coup de regarder cette version taïwanaise qui n'a absolument rien, j'insiste sur rien à voir avec Okuto no Ken. qu'est-ce qui se passe dans ce film. Je vais en parler un petit peu si vous me permettez, les gars. Alors, il y a un mec qui est habillé comme Kenshiro, un mec habillé comme Lin et Bat, et c'est tout. C'est tout le rapprochement qu'on peut faire avec le Hokutonoken qu'on connaît, puisque en fait, ce film taïwanais, on va dire taïwanais, hein, vous irez vérifier par vous-même sur Internet, ce film taïwanais se passe dans une époque contemporaine, alors ça doit être dans les années 90, il me semble, peut-être, et ben, y a pas eu de fin du monde. Il y a un humour très 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 discutable, de mauvais goût, où Kenshiro peut faire de la magie. Et vous savez ce qu'il fait quand il rencontre Bat? Eh ben, il se met à le ridiculiser en le mettant tout nu. Il lui fait disparaître ses vêtements. Et c'est un humour qui reviendra aussi un peu plus tard dans le film, où Lin, enfant, une petite asiatique jouée par une enfant de moins de 10 ans, va se retrouver en petite culotte. Alors je vous dis déjà, rien que avec cet effet humour, on va pas rigoler toutes les minutes dans ce film. Un film qui a en plus un rythme très 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 particulier et un montage dégueulasse. Donc peut-être que les Asiatiques savaient les acteurs asiatiques étaient peut-être des experts en arts martiaux dans ce film taïwanais, mais le cadreur ne s'est pas monté les films, les scènes de combat, puisque un bout de scène de combat va se retrouver au début, puis un petit peu mélangé. C'est vraiment n'importe quoi. Des fois, visuellement, ça n'avait pas de sens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ben, y a des monstres, hein, qui on dirait du tokusatsu des années 70. Ils ont des masques où ils se battent contre un Kenshiro qui fait pas un Kenshiro, mais qui va faire un petit peu comme le film coréen, c'est-à-dire de la Bruceploitation, où il va imiter Bruce Lee. Inutile de dire que le Hokuto Shinken, il n'y aura rien du Hokuto Shinken, il va avoir plutôt des pouvoirs magiques. Les méchants seront des fois des projections astrales géantes. Le grand méchant n'est pas Rao, n'est pas Shin, mais une des principales antagonistes du film taïwanais est une femme habillée en léopard qui peut faire des pouvoirs magiques. Je crois que on peut terminer, parce que il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais on peut terminer aussi sur la musique du film, qui n'est pas du coup un plagiat de la musique de Hokutonoken. Non, c'est tout simplement le thème récurrent de Les Portes du Pénitencier, qui revient tout le long du film et qui est pour dire HS, le hors sujet a été inventé pour ce film. Il n'y a rien dans aucune essence, aucun moment où on peut dire qu'il y a du Hokutonoken dans ce film taïwanais. Et je pense que lui accorder ne serait-ce qu'une ligne dans notre bouquin aurait été une erreur, tant ça ne répond en rien au chef-d'œuvre de Ara et Bjornsson.
C'est pour ça qu'on a parlé c'est pour ça qu'on a parlé de celui de Randell, donc l'adaptation américaine et de l'adaptation coréenne de 93, qui est fauché et qui est fidèle au scénario du film de 86, mais qui a au moins le mérite de proposer des chorégraphies martiales qui ont rien à voir avec le côté Shinken, mais qui sont de très bonnes factures, hein, et qui sont un bon film de Bruceploitation avec des bons fights. Oh, mais ça, c'est pas un bon film, hein, d'accord. Donc oui, c'est vrai que Hokutonoken, alors bon, le Randell, il pose plein de problèmes, mais c'est un film malade, on va dire. Moi, plus qu'un nanar, voilà, je dirais que c'est un film malade. Et et c'est un film qui aurait pu être mieux. Il y a plein de choses qui font qu'un film n'est pas bon. C'est parfois même pas que de la faute d'un réalisateur, c'est de la faute de plein de choses.
Et, c'est une accumulation de choses.
On le dit dans le livre, hein, par exemple, Gary Daniels, qui joue le rôle de Kenshiro, il concevra son fils pendant le tournage de ce film, et son fils s'appelle Kenshiro. Donc c'est quand même pour dire que c'est pas des gens qui s'en foutaient de cette œuvre-là. Ils ont pas réussi leur coup pour plein de choses. C'est sûr que Hokutonoken méritait mieux en adaptation live. Mais alors bon, voilà, bon, si on fait le compte de toutes les adaptations live d'animé manquées, ratées, elle en fait certes.
Saint Seiya dernièrement,
sur lequel je fondais tellement d'espoir. Qui ont été bien déçus, je l'avoue.
Dès les premières minutes.
Mais voilà, c'est un film qu'il faut voir à l'aune de son histoire de production, qu'il faut voir à l'aune des ambitions manquées, des gens qui s'en sont occupés, et tout ça, c'est Guillaume qui s'est occupé de l'écrire, je trouve qu'il l'écrit très bien dans le bouquin. Voilà, donc non, je peux comprendre qu'on n'aime pas le film, mais voilà, moi je lui donnerai quand même pas le titre de nanar. Voilà, je donnerai le titre d'une petite série B qui a pas les moyens de ses ambitions.
D'accord. Donc bah, allez voir le film donc Fist of the North Star, bien sûr.
Mais c'est pas insultant.
Mais effectivement, il y en a beaucoup qui peuvent, voilà, en tant que fan de la série, je comprends parfaitement si on prend mal.
Après, il y a un problème très cinématographique avec Kusunoken, comme avec d'autres mangas qui se sont foirés. Ça, c'est que le Hokuto Shinken, c'est en manga ou en animé, ça le fait, mais en live action, le Hokuto Shinken, c'est quand même très compliqué en faire quelque chose de sérieux et de voilà, quand on voit Gary Daniels faire des masser le gars là comme ça, la scène, tout le monde la connaît, tout le monde s'est moqué. Oui, c'est ridicule. C'est ridicule, mais c'est parce que eux au moins ont eu le désir de coller au Hokuto Shinken. Ils ont voulu nous montrer ce que c'était. Bon, c'était pas réussi, mais on peut leur reconnaître ça. Ils ont pas fait juste un film de kung-fu.
Non, mais c'est super dur. Essayer d'adapter de quelque chose comme tu le dis Hokuto Shinken, c'est super dur. Déjà, qu'est-ce qu'il fait déjà quand on lit le manga? Est-ce que il touche Kenshiro? Est-ce qu'il propulse? Est-ce que ça fait des impacts? Comment on le rend à l'écran? Il faisait des espèces de mantra pour montrer qu'il y avait quand même une magie derrière ses gestes, mais c'est tellement prise de tête. Et récemment, il y a eu il n'y a pas très très longtemps, mais il y a un court-métrage ou un long-métrage italien qui n'est pas connu. Alors, je parle avec mes souvenirs, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur mes réseaux, mais il y a toute une séquence où quelqu'un l'a fait premier degré avec des gerbes de sang de fou, donc c'est en live action. Un petit court métrage je crois que c'est italien, où un mec il va s'inspirer de Hokuto no Ken pour faire ses combats, et il va reprendre des gestes et des séquences de l'animé, du manga, pour mettre en scène ces scènes de baston. Et ben avec toutes les gerbes de sang qu'il y a, je me dis, mais en fait, si on essaie de faire du Hokuto no Ken aujourd'hui, il va être directement interdit au moins de 16 ou 18 ans. C'est impossible de retranscrire exactement la violence graphique du manga sans passer par des trucs, des détournements. L'anime avait réussi à le faire très très bien, justement. Mais comment on fait ça? Moi, je peux pas jeter la pierre à Tony Randall et toute son équipe pour avoir essayé, parce que je pense pas que ça soit si facile que ça. Néanmoins, je vais quand même dire que à l'époque, même s'il y avait des très mauvaises adaptations, il y avait aussi des bonnes. Moi, Old Boy, c'est un chef-d'œuvre. Après c'est pas le même budget, c'est pas le même le même type de manga, mais on peut y croire. Et si Old Boy, c'était déjà un bon exemple de réussite, aujourd'hui, il y a des succès qui sont en live action et qui arrivent sur nos plateformes comme Netflix. One Piece a eu un bon succès critique de la part de beaucoup de fans. Il y a eu, et là, il y a bientôt une adaptation japonaise de Yu Yu Hakusho, le manga de Togashi, Yoshihiro Togashi. Donc, je sens que dans toutes ces adaptations, eh ben pourquoi pas Hokuto no Ken, quoi. Alors, il y aura obligatoirement adapter, c'est trahir. Il y aura forcément une trahison envers le manga, l'anime ou quoi que ce soit pour essayer d'adapter ça. Mais si jamais on imagine qu'il y a une adaptation, pourquoi pas. En tout cas, le seul truc en live qu'on peut voir d'officiel sur Hokuto no Ken, c'est une comédie musicale. Voilà, oui. Japonaise,
c'est ça. C'est vrai, c'est assez drôle de se dire qu'ils ont fait une comédie musicale au Hokuto no Ken.
D'ailleurs, je parle de live, mais même en termes d'adaptation animée. Alors, je parlais de l'animé de 84, mais combien de fois ils ont essayé d'adapter le manga de Hara et Buronson en animation, et c'est super dur de pas mettre des tripes à l'air quand on parle de du Hokuto Shinken quand même. C'est mm-hmm. c'est des organes qui implosent, c'est des mecs découpés en mille morceaux, et ils ont essayé de le faire, et on sait que bientôt il y aura une nouvelle adaptation animée de Hokuto no Ken. Comment ça va être? Est-ce que ça va être en 3D? Est-ce que ça va être très fidèle? Est-ce qu'ils vont trouver des moyens de censurer mais pas vraiment? Comment ça va être? Donc, on parle d'adaptation live, c'est dur, mais maintenant, qu'est-ce que ça va donner le prochain animé?
Je reviens sur la... Alors, sur les animés, vite fait, hein. On voit, par exemple, que il y en a qui vont faire le pari de la violence, hein, et de la... de pas se censurer. Je pense notamment au film de 86, mais je pense surtout au Shin Hokuto no Ken, les trois OVA qui ont été réalisés début 2000. Hein, ou fin 90, Guillaume, c'est...
Début 2004.
C'est début 2000.
Ouais. Et qui sont... Alors, Bronson avait hurlé contre la violence de ces trucs-là, comme si son manga, lui, ne l'était pas. Donc, mais ou qui avait fait le pari de faire la violence et qui était plutôt pas mal réussi. Mais je reviens sur la rubrique de l'ami de High Kick dans ton podcast, de Jazz, qui parlait de Rikkyo, un film hongkongais, hein, un film d'un mec qui s'appelle Lam Nai Choi, un film qui date de 1992. Et si vous voulez voir, je pense, là, je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, mais je pense que c'est ce qu'il disait, hein, si vous voulez voir une bonne réadaptation de Hokuto no Ken, pour moi, c'est ce qui se fait. C'est ce qui s'est fait de mieux. Alors, c'est très bis, c'est très gore, c'est de la catégorie 3. Oui, la catégorie 3, c'est le genre interdit au moins de 18 ans à Hong Kong, qui n'existe plus depuis 1997, puisque Hong Kong a été rétrocédé à la Chine, et la Chine continentale a mis fin à cette catégorie. C'est un film d'un réalisateur complètement fou, que moi j'adore, dont j'ai écrit des papiers dessus, enfin voilà, moi je voue un vrai culte à ce réalisateur là, Lam Nai Choi, qui en fait tiré d'un manga qui s'inspire de Hokuto no Ken, hein, Rikkyo, c'est un manga de Tetsuya Surawatari, le mec qui a fait Toph, la suite de Toph, tout ça là, donc et qui finalement, lui, c'est un mec qui recherche son frère et qui a 5 impacts de balles dans le torse, et qui, enfin voilà quoi, c'est déjà une ressucée en manga de Kenshiro, et c'est ce qui est adapté par un mec de Hong Kong. Et finalement, si on veut voir un peu ce que peut donner Hokuto no Shinken décomplexé, super sanglant et complètement barré, je conseille à tout le monde ce film. Voilà.
D'accord. Alors j'ai dit 2004, ça a commencé en 2003 et 2004.
Le Shin Hokuto no Ken, début 2000. Ouais. Donc, voilà. Par contre, je suis très content. Merci Jazz d'avoir cité ce film.
C'est incroyable de voir.
Découvrez Rikkyo et la filmographie de ce mec. Alors là, vous allez voir un réalisateur vraiment taré. Je pense que vous en avez pu rencontrer des cas.
Bon, bah, c'est le conseil de Guillaume et Paul pour le petit film du samedi soir. Voilà. Vous voulez vraiment voir de la baston et du réalisateur taré. Moi, je vois bien une adaptation en live action à la façon un peu de Mad Max, quoi. Reprendre un peu les bases de ce qui a servi de base à Hokuto no Ken, quoi. C'est vrai que
Hokuto no Ken, il y a tout pour faire. Parce que les bases d'Hokuto no Ken sont au son cinématographique. Hokuto no Ken, c'est ancré dans Mad Max. Alors ça, c'est indubitable. Je veux dire, ça a été dit et redit. Je pense qu'il y a même pas besoin de. Voilà, c'est le fond du Hokuto no Ken, l'univers, c'est Mad Max 2, hein. Et c'est aussi, ça puis ses racines, bien entendu, dans les films de Bruce Lee, ça puis ses racines, dans les films de la Shaw Brothers, c'est-à-dire dans les films de Kung Fu hongkongais, le Nanto Saiken et le Hokuto Shinken, c'est juste des, ersatz des écoles de Wu-Tang et de Shaolin, hein. Avec quelques moyens et quelques courage, un peu de courage, je pense qu'on peut faire une très bonne adaptation live de Hokuto no Ken.
Ah oui.
C'est pas
les personnages. Donner le projet à Choi Ark.
Ah ouais, ça serait complètement dingue ça. Je pense que Choi Ark ferait un très bon Hokuto no Ken, c'est sûr.
Ah, c'est sûr.
Et je suis même pas, je vais pas vous le dire avec certitude. En plus, je viens de faire un podcast sur J'ai enregistré un podcast sur Treyarch il y a deux jours là. Je suis même pas sûr qu'il n'y ait pas pensé.
Ah ouais ?
Ouais.
Ah, dis-moi, non, tu me chauffes là.
Non, je suis pas sûr. Bah, on sait l'amour qu'il a pour le manga. Il a déjà adapté des choses du manga. Bah, par exemple, il a adapté Wicked City hein, de Yoshiaki Kawajiri. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est inspiré de manga dans ses films, dans les Detective D, dans tout ça. On retrouve pas mal de références à des mangas. Je pense que ça a déjà, alors moi, je le dis comme ça, je pense que ça a déjà été envisagé. Ça s'est pas fait. Mais je pense que ça a déjà été envisagé. Et c'est pas, je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens techniques pour moins cher, parce qu'aujourd'hui, alors il y a qu'à voir le cinéma chinois, les DTV chinois, parce que le direct to vidéo chinois aujourd'hui, ce qu'il est capable de faire avec 3 francs 6 sous, il arrive à concurrencer, je vous le dis tout de suite, franchement les SFX de Marvel, hein, franchement moi je vous montre des DTV chinois ou du cinéma indien qui concurrence Marvel au niveau des effets spéciaux assez facilement et pour beaucoup moins cher. Je pense qu'aujourd'hui dans pas mal de coins du monde on pourrait faire un très bon Okutonoken, donc pourquoi pas.
Ouais, bah alors SSS Rajamouli, pardon, excuse-moi.
Vas-y.
Bah, vas-y, j'étais dans le fantasme.
Peut-être pour les 45 ans. Hein.
Ouais, je sais pas. Rajamouli qui fait un Okutonoken, t'imagines, putain, Paul.
C'est pas fou, ça.
Ça serait incroyable.
C'est sûr que c'est
Rajamouli, s'il nous entend. Voilà.
Rajamouli, fais-nous un Okutonoken, s'il te plaît.
Okutonoken, voilà. Oui.
Et puis voir Okutonoken nous faire une séquence de danse. C'est quand même sympa. De voir Kenshiro danser avec Rao comme dans RRR, ça serait marrant.
Il n'empêche que RRR, c'est un phénomène de ouf au Japon. Hein, on digresse. RRR, c'est un des plus grands films d'action de tous les temps.
Pas peur des mots, vas-y.
Hein, en fait, il a eu tellement de succès au Japon. Il y a même des vidéos de partout, ils refont la chorégraphie là-bas, mais vous êtes même pas, vous pouvez même pas imaginer la puissance de ce film RRR. Et vu que ça est arrivé jusqu'aux oreilles du Japon, j'imagine s'ils préparent une petite commande chez Rajamouli pour faire un Okutonoken, je pense qu'on aurait le truc ultime, quoi. Ça serait incroyable.
En tout cas, vous m'avez donné envie de regarder les Mad Max maintenant.
D'ailleurs, grand bonjour à Melvin Z qui intervient dans notre livre, qui m'a laissé quelques commentaires sur quelques vues sur Mad Max 2 et qui est dans le livre. Et Melvin Z, c'est sans m'avancer le plus grand connaisseur mondial de Mad Max. C'est quelqu'un qui vient d'écrire un livre sur Mad Max 1 qui est une bible de plus de 500 pages, énorme, documentée comme jamais, qui a gagné des prix d'ailleurs, hein. Son livre a gagné des prix littéraires, et qui est en train de nous préparer le 2. Et donc ce grand bonhomme, ce grand connaisseur de Mad Max, intervient à un moment donné dans le livre pour rétablir quelques contre-vérités que beaucoup de gens disent sur Mad Max et Okutonoken. Voilà. Moi, je vous laisserai, pour ceux qui le liront, lire ce qu'ils en disent, justement.
Bien sûr, il faut lire le livre, bien sûr. Non, mais c'est même obligatoire après avoir écouté ce podcast. Lisez le livre donc de Guillaume Lopez et de Paul Kossem.
D'ailleurs, il y a plein d'intervenants hein, dans notre bouquin. Il y a plein d'intervenants dans notre bouquin. Il y a des experts qui prennent la parole. On a aussi des membres du staff de l'animé Okutonoken. Donc, il y a 3 interviews. Le chara-designer Feu Masamisuda, son élève Junichi Hayama, et un qu'on oublie beaucoup, Hironobu Saito, qui vient de l'école de Shingo Araki, donc Senseiya, et qui a apporté aussi sa touche personnelle sur la série, qui est un des monsieur qui a le plus œuvré d'ailleurs sur les épisodes de Okutonoken et qui nous livre en exclusivité une interview. Et je pense que c'est la seule interview qu'on peut trouver du monsieur in the world, dans le monde.
Très bien.
Et on a Beauparleur qui est un...
Beauparleur, évidemment.
Alors du cinéma, qui a une chaîne YouTube, mais qui est aussi un enseignant d'arts martiaux et qui est 4e dan de karaté, et qui nous explique aussi le réalisme ou pas du Hokuto Shinken. Est-ce que le Hokuto Shinken, c'est faisable en réalité ou pas, et qui nous donne donc son avis d'expert en arts martiaux sur le sujet. Donc on a quand même pas mal de gens qu'on a invité à participer à ce bouquin et qui parle là-dedans. Et bien entendu, on remercie tous ces gens-là et surtout, bien entendu, ces animateurs japonais de grand renom qui ont accepté de répondre à nos questions en sachant que Masami Suda, il est décédé depuis. Masami Suda, c'était sa dernière interview. Hein.
Ouais.
Moi, j'espère pas personnellement que ce soit possible à faire dans la vraie vie. Hein. J'espère pas parce que des mecs, il va pas falloir les
avoir. Alors, spoiler, pas à ce point-là. Spoiler, pas à ce point-là. Mais les points vitaux, ça
faire. Voilà, les points vitaux, on peut faire des trucs avec. Effectivement. Voilà. Ça, c'est plutôt intéressant. Ouais. On en a dit des belles choses. Et avant de se quitter, j'ai un petit jeu, entre guillemets, pour nous trois. Enfin, plutôt pour vous deux. Si là, d'un coup, du jour au lendemain, on se retrouvait dans le monde de Hokuto no Ken, la terre est dévastée, nous avons des déserts arides sur toute la planète, les villages sont attaqués, sont sur les hordes de bandits qui violent des femmes, qui prennent la nourriture, etc., qui tuent des enfants. Dans l'univers de Hokuto no Ken, quel personnage, en fonction de vos caractères dans la vraie vie, quel personnage vous représenterait le mieux?
Alors moi, je dirais que... J'aurais bien aimé être la version masculine de Yuria, parce que j'aurais bien aimé que tout le monde me court après.
Bon, putain, voilà. je l'ai dit dans ma tête avant que tu le dises.
Mais bon, putain. C'est raté, donc je choisirais un truc plus réaliste. Moi, je choisirais Fudo.
Fudo ?
Fudo, parce que Fudo, c'est un bon papa, et que j'embrasse les miens, donc Nono et Inès, gros bisous. Et voilà, donc je choisirais Fudo parce que c'est un papa, et que bah, j'aimerais bien être un aussi bon papa que lui, voilà.
Moi, j'aurais pris Fudo aussi par rapport à la corpulence que je fais. C'est pas la même chose. Et pour toi, Guillaume ?
Je peux parler de mon personnage préféré, mais je sais pas si c'est celui qui me représente le mieux. Hein. Je veux quand même en parler comme ça, c'est cool.
Vas-y.
Shachi, c'est mon personnage préféré parce que c'est aussi un mec qui a... qui a étudié l'amour, qui a étudié aussi le Hokuto Ryuken, qui est une version maléfique du Hokuto Shinken, et qui s'est fait passer pour un méchant, alors que c'est un mec super, c'est un mec qui a beaucoup d'amour, qui a essayé d'utiliser différentes stratégies pour abattre dictateur du pays de Shura, et c'est pas le plus fort, loin de là, c'est juste quelqu'un qui essaye de faire les choses bien à sa façon, et je pense que je lui ressemble un peu là-dessus.
Il a une belle chevelure en tout cas.
Oh oui.
ok. Pour moi, ouais, pareil, je parlais plutôt de mon personnage préféré parce que c'est vrai que en termes de caractère, moi, au bout de 10 minutes, vous m'abandonnez là-dedans, c'est bon, moi, je suis complètement largué.
La vérité, c'est qu'on aurait été un soldat de merde, on aurait tout cassé.
En vérité, je suis le mec qui se fait tuer dans le premier chapitre dans sa voiture avec sa famille.
Oh merde! Oh putain!
C'est ça.
En vérité, c'est ça.
Voilà. Non, après, mon personnage préféré, c'est Rei. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce personnage. Et je me souviens, le premier tome que j'ai ouvert de Hokuto no Ken, c'était la version j'ai lu, c'était le tome 8, là où Rei, justement, se fait sabater par Rao. Ça reste un traumatisme. Et puis ensuite, voilà, je suis tombé dedans. Alors, personnellement, c'est vrai qu'après, j'ai découvert Soten no Ken. Et je me suis beaucoup plus... J'ai beaucoup plus apprécié Soten no Ken parce que j'ai vraiment un grand amour pour les films de tout ce qui est mafia, etc., gangster dans les années 30, voilà. Donc là, pour le coup, on tombe en plein dedans avec cet affrontement entre les différents gangs pour l'opium dans Soten no Ken. Donc pour le coup, j'ai beaucoup plus apprécié ce style de récit que Hokuto no Ken, mais Hokuto no Ken reste pour moi l'un des grands mangas qu'il faut lire, en tout cas si on veut vraiment lire les meilleurs mangas qui sont sortis dans les années 80.
Et, alors après,
Vas-y.
Non, mais t'as raison, c'est super, et puis c'est un film qui... Alors bon, je vais parler sur Hokuto no Ken, Soten no Ken, parce qu'on pourra en parler des heures, mais c'est pareil, quelque chose qui reprend plein de choses, des films de triade... que moi j'adore et tout ça, donc et qui est ancré dans une histoire réelle cette fois-ci, donc c'est autre chose. Voilà, donc Parce que Tenoken, c'est un joli morceau aussi, mais si je parlerai après aussi d'un personnage que je préfère, auquel je m'identifie pas, parce que j'ai pas le
j'ai pas la
prétention d'être lui ressembler, mais que je trouve très beau, et dans sa relation avec Kenshiro, et dans son abnégation et dans son histoire, c'est Shu. Moi, j'adore le personnage de Shu. J'adore son histoire à Kenshiro, qu'il connaît depuis l'enfance, qu'il sacrifie sa vue pour que Kenshiro reste en vie, parce qu'il sent en lui le sauveur de l'humanité. C'est quelqu'un qui va avoir une fin biblique, au sens strict du terme. Je pense que, à part si on enlève les grands Rao, Toki, Kenshiro, tout ça, je pense que c'est un des personnages qui m'a le plus marqué et dont la fin m'a le plus ému.
C'est vrai que la fin, elle est assez émouvante, là, le combat avec Sauter. Comment on dit Sauter, ouais, je sais pas.
Sauter,
merci, désolé pour le...
Sauter. Le sudiste, c'est ce qu'il y a à dire en français, le sudiste.
Le sudiste, ouais.
Alors, c'est très rigolo, parce que on a eu les 40 ans de Hokuto no Ken au Japon, et il y a eu un événement autour, et malheureusement... Hokuto no Ken, pour les auteurs qui en ont parlé justement récemment lors de leur événement, donc c'est un musée de Hokuto no Ken, eh bien, ils enlèvent toute la partie 2 et 3 de leur manga. Ils n'en parlent quasiment pas. Il y a d'ailleurs, vous ne pouvez pas le voir, mais on nous a envoyé, et je tenais à remercier notre ami Zad Godfire, qui est allé au Japon et qui nous a gentiment envoyé l'artbook de cet événement au Japon.
J'ai vu passer les photos sur X, effectivement, ouais. L'artbook, il est magnifique.
Et en fait, dans ce bouquin, il n'est pas question de parler de Kasumi Kenshiro, Soten no Ken. On ne parle pas de Soten no Ken Regenesis, on ne parle pas de Ken 2, on ne parle pas de Ken 3. Ken 2, Ken 3, c'est bien de donner des numéros, mais en vérité, Hokuto no Ken, c'est en premier 27 volumes. Sera résumé en 14 pour l'extrême édition. Mais pour les auteurs, là, dans ce bouquin-là qu'il y a eu pour cet événement Hokuto no Ken, ils n'en font absolument pas mention. Il n'y a pas du tout, je ne sais pas si tu as vu Paul, toi, le book, on ne parle pas.
Ça m'étonne peu, en fait, hein, parce que la deuxième marque, hein, la suite de Hokuto no Ken après la mort de Rao, c'est quelque chose qui a laissé de très mauvais souvenirs à Buronson, qui n'en parle jamais, qui dit qu'il ne l'a même pas relu, qui finalement n'aime pas cette version, parce que finalement, c'est quelque chose que la Shueisha leur a imposé devant le succès. Ils pensaient finir avec la mort de Rao. On les a obligés à continuer l'histoire. Après, personnellement, c'est pas loin d'être ma série, d'être ma partie préférée, parce que je pense que c'est une série qui va développer complètement le lore de la licence. Et puis c'est quand même la partie où quand même Ara, au niveau du dessin, il est à son top, quoi.
Ah oui,
donc
oui.
Moi j'adore
les covers, elles sont sublimes. L'édition de Crunchyroll, elle est vraiment sur l'édition de Crunchyroll, moi j'ai un petit bémol, c'est au niveau du prix. Je trouve qu'elle est quand même excessivement chère pour une réédition.
Je trouve qu'aujourd'hui, alors je me mets à la place des éditeurs qui ont finalement un marché où ils sont bons. Quand on voit le dessous et qu'on sait ce que peut gagner un éditeur sur un livre qui est mis en vente, il y a plein de choses que on prend pas en compte. Mm-hmm. Mais bien entendu, moi-même en tant que lecteur, la flambée des prix des mangas aujourd'hui, je trouve ça quand même très problématique.
Sur les sites de revente, tu vois les prix de l'édition de la première Deluxe édition de Kazé, donc à l'époque c'était Kazé, on atteint des centaines d'euros par tome, c'est incroyable.
Je parle même neuf, quoi. Je veux dire, moi, le fait qu'aujourd'hui un tome de manga qui est un tome qui n'est pas une version de luxe, je vois pas de nerf, et qui vaut 14 euros, je trouve ça quand même, je veux dire, il y a 2-3 ans, ça en valait 7, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu problématique. Bon, il y a la crise du papier,
il y a plein de choses.
C'est aux éditeurs de s'expliquer, Voilà. On rappelle que Ferd est un éditeur aussi qui n'a pas augmenté ses prix.
C'est ça.
Donc, bon, bah, avis à ceux qui les ont augmentés de nous expliquer pourquoi. Moi, je suis pas éditeur, donc je peux pas dire. Je ne peux que déplorer le fait que, oui, je trouve que les mangas aujourd'hui sont de plus en plus chers. À l'époque, on essaye de lutter contre les scans trad et compagnie.
Ouais.
Je suis pas si sûr que ce soit la meilleure option. Mais bon, je ne suis pas éditeur, j'ai pas d'entreprise, je paye pas de gens, je paye pas d'URSSAF, donc je me mets pas à leur place. C'est à eux d'expliquer le pourquoi du comment.
D'autant plus que c'est dommage. Je disais que c'est dommage de. Enfin. Le fan va acheter l'édition, il va être très content parce que je pense que ce qui sort aujourd'hui, la nouvelle édition de Hokuto no Ken est une belle édition. Hein, il n'y a pas de problème avec le produit en lui-même, je pense. C'est pas pour autant que je l'ai acheté. Mais c'est vrai, moi, le truc trop dommage, c'est que j'aurais presque préféré une version non de luxe, moins chère, pour que tout le monde puisse découvrir ce chef-d'œuvre du manga, tu vois. Okuto no Ken, là, il va falloir économiser pour acheter deux volumes. Pour les gamins qui sont au collège, bah, ça va être difficile. Moi, je me souviens, alors je fais encore le rapport avec moi, mais quand je vais essayer de trouver dans des magasins d'occasion les volumes de J'ai lu de Hokuto no Ken, quand je trouve un volume à 3 euros, j'étais super content. Et j'ai pu découvrir le manga grâce à ces petits prix. Et ça faisait plaisir. Et je ne crois pas que Hokuto no Ken devrait juste s'enfermer sur cette édition. Et je ne crois pas qu'il y ait d'offres légales de lecture en ligne de Hokuto no Ken. Je ne crois pas, je n'en suis pas sûr, peut-être sur Manga Plus, je ne sais pas, je sais pas. En tout cas, si y a une possibilité que ça puisse être facilement accessible, bah, je ne serais pas contre. Après, mais comme l'a dit
Paul,
on ne paye rien, on ne juge pas, on trouve juste un peu dommage, j'imagine, que ça soit si difficile de lire ce monument.
C'est surtout que quand on voit la qualité de Soten no Ken qui est édité chez Mangetsu, donc en termes de couverture, de papier et autres, qui au lieu d'être à 15 euros, c'est à 9,90, on se dit que bah, peut-être que Crunchyroll aurait pu faire peut-être un effort à ce niveau-là. Après, Soten no Ken est peut-être un peu plus de niche dans l'univers de Okuto no Ken que la série principale. Peut-être que c'est pour ça qu'il...
Voilà, le problème de... Alors, je parle... Je connais pas les gens de Mangetsu, mais je connais des gens qui sont très proches d'eux et il me semble, en ayant parlé, que ouais, c'est des grands fans de Hara chez Mangetsu.
Énormément.
Et ils avaient lorgné sur Okuto no Ken et je crois que le prix des droits est exorbitant et je pense que c'est aussi ce qui joue sur le prix ils ont pas eux n'ont pas réussi à le récupérer, ils ont essayé.
Et c'est dommage parce que la majorité du catalogue de Tetsuo Hara, il est chez Mangetsu.
Il est chez eux, ouais.
La majorité, donc c'est vrai que c'est dommage.
Comme toi, tu vois, Okuto no Ken, c'est différent. Voilà. Okuto no Ken, c'est différent. Pour celui-là, ils n'ont pas réussi. Ils ont eu Keiji, ils ont eu Ikusanoko, ils ont eu tout ça. Mais ils ont eu Soten no Ken, mais Okuto no Ken, rien à faire, ils ne l'ont pas eu.
Un jour, peut-être, la prochaine réédition de Okuto no Ken, peut-être.
On verra bien. On croise. Et puis, on verra l'effet que fera cet anime qui va sortir là.
Bah oui.
Hein, on verra bien qu'est-ce que ce sera, qu'est-ce que ça donnera, est-ce que ça aura du succès et à ce moment-là, on verra bien ce qui se passera.
Bah je l'espère en tout cas parce que c'est.
Ah ouais, j'espère moi aussi.
Nous, en tant que fan, c'est ce qu'on veut bien sûr pour. Alors, j'ai juste perdu ce que je voulais dire. Désolé.
Pas de problème.
Là, hop. Alors, Paul, Guillaume, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation donc, pour parler de Okuto no Ken. Bien sûr, on n'a pas parlé de tout, il reste encore énormément de choses dont on pourrait parler, les musiques, la manière de dessiner, les références qui sont cachées tout au long du manga. On pourrait faire des podcasts de des heures et des heures. Malheureusement, on est pris par le temps. Et puis aussi, ça donne pourquoi pas envie aux éditeurs d'aller acheter votre livre et aussi de découvrir Okuto no Ken pour ceux qui n'ont pas découvert ce vrai bijou du manga. N'hésitez surtout pas à aller sur Sœurs d'édition pour prendre Dans les arcanes de Hokuto no Ken, l'héritier de l'apocalypse. Vous avez la version First Print, il en reste encore, allez-y, encore une fois, avec une superbe couverture de Daniel Warren Johnson. Et puis si malheureusement il n'y a plus de First Print, vous avez l'édition classique qui est tout aussi belle et super intéressante. Vous avez aussi d'ailleurs en téléchargement, moi personnellement j'ai opté pour ça, mais ça ne va pas m'empêcher de prendre le bouquin parce que j'adore Sœurs d'édition, franchement j'adore leur boulot, donc n'hésitez pas à les suivre aussi sur les différents réseaux sociaux. Messieurs, encore une fois, merci, lisez Hokuto no Ken, regardez Hokuto no Ken, et voilà, n'hésitez pas à aller prendre leur livre et savourer cette perle historique du manga des années 80. Merci à vous et à la prochaine. Color, 鎖で繋いでも今は無理。